les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. La modernisation de la Société des sciences, lettres et arts, la numérisation des bulletins, voici l'intervention d'Isabelle Blain, ancienne directrice de la médiathèque de Bayonne, membre de la SSLA.
Oui, alors, bien évidemment, la première question qu'on se pose, pourquoi numériser ? Alors, tout simplement, parce qu'on considère que toute cette collection, toutes ces publications, ont un intérêt, évidemment, pour le grand public, mais aussi pour les historiens, les généalogistes, les étudiants, etc., mais aussi parce qu'il est intéressant et primordial pour une société comme la nôtre d'être présent sur Internet. Ensuite, évidemment, derrière, l'idée est aussi d'acquérir de nouveaux publics. Alors, c'est aussi une question de préservation de la collection et de conservation, évidemment, qui est un souci, puisque une bonne part de la collection est en très bon état, certes, mais évidemment, les bulletins les plus anciens ont vécu. Certains n'existent plus qu'en un seul exemplaire qu'il faut donc préserver. Les conditions de conservation ne sont pas toujours adaptées au sein d'une société comme la nôtre, et c'est le cas pour nous depuis quelque temps. Et ensuite, la consultation des fameux exemplaires restants est fragilisée, ne serait-ce que par la qualité du papier pour les bulletins les plus anciens. Alors, une autre raison qui nous a fait décider de procéder à cette numérisation, c'est tout simplement la sollicitation de la Bibliothèque nationale de France, que j'appellerai BNF par la suite. Alors, la Bibliothèque nationale de France a pour mission la diffusion la plus exhaustive possible de la documentation publiée en France, bien sûr, ça fait partie de ses missions principales. Elle est évidemment intéressée à proposer une collection la plus complète possible des publications des sociétés savantes françaises. On le verra un peu plus loin. Elle apporte évidemment son savoir-faire en matière de numérisation, puisqu'évidemment, un des soucis des sociétés savantes, comme des bibliothèques d'ailleurs, c'est de connaître les techniques, les démarches à entreprendre lorsque l'on veut numériser une collection, bien évidemment. D'autre part, et ça intéressait bien aussi notre société comme d'autres, la Bibliothèque nationale de France, la BNF, prend en charge financièrement le coût de la numérisation et le suivi auprès d'un prestataire spécialisé, ce qui n'est pas négligeable pour nous. Et ensuite, elle assure la mise en ligne de nos données dans Gallica, son portail numérique. Alors, on voit ici, j'ai fait des captures d'écran parce que je n'étais pas sûre d'avoir un lien vers Internet et puis parce que ça prendrait du temps. Vous avez à gauche la page d'accueil de la Bibliothèque nationale de France sur ses missions de coopération régionale et d'action territoriale, puisque c'est ce service-là qui est en charge des liens avec les bibliothèques et avec les sociétés savantes, notamment. Alors, sur la droite est expliqué justement l'article spécifique sur la numérisation des publications des sociétés savantes. Bien sûr, c'était lisible de loin, mais bon, c'est un document que vous aurez aussi par la suite. Bon, tout simplement, ça fait référence au fait que donc c'est une des missions de la BNF, que depuis 1997, 900 titres de revues savantes ont déjà été numérisés, qui représente 21 000 fascicules et 9 millions de pages. Une centaine de conventions ont été signées avec les sociétés savantes. Alors, évidemment, la SSLA aussi a signé une convention de partenariat avec la BNF. Donc, compte tenu de l'intérêt national des collections des bibliothèques, le service coopération dont je viens de parler signe des conventions avec les bibliothèques, non seulement pour les publications des sociétés savantes, mais aussi pour leurs collections en général. Donc, elle signe des conventions avec les communes, les intercommunalités et les régions. En Nouvelle-Aquitaine, une convention a été signée il y a quelques années avec la région pour les fonds remarquables des bibliothèques. À Bayonne, une convention spécifique a été signée pour les fonds basques, puisque Bayonne est devenue pôle associé, c'est-à-dire pôle de référence national pour les fonds basques. Et donc ici, cette convention spécifique a été proposée à la SSLA et la présidente l'a signée bien volontiers. J'allais dire des deux mains. Alors, je vous lis un extrait de cette fameuse convention. Considérant l'intérêt scientifique et la valeur patrimoniale des bulletins de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, et on l'a vu tout à l'heure dans leur description, la complémentarité des collections de cette société savante avec celle de la BNF et la volonté de celle-ci de valoriser son patrimoine documentaire en partenariat avec la BNF. Donc la SSLA s'est engagée à mettre à disposition une collection complète avec un tableau de récollement et saisi de code-barre identifiant chaque numéro de revue. Elle s'est engagée aussi à prendre en charge le transport des volumes dûment assurés et elle règle elle-même la question des droits d'auteur des textes, puisqu'évidemment, les textes jusque 1953 sont entrés dans le domaine public, mais pas ceux qui ont été publiés depuis 1954. La BNF, de son côté, donc tous ses engagements sont évidemment notifiés dans la fameuse convention. La BNF s'engage à opérer la numérisation proprement dite, qu'elle confie à un prestataire spécialisé. Elle prend en charge le coût, donc comme je le disais tout à l'heure. Elle prend soin des collections confiées, bien évidemment. C'était aussi une de nos craintes, notamment pour les exemplaires uniques dorénavant, c'était de s'assurer que les exemplaires reviendraient après numérisation. Et évidemment, la BNF assiste la SSLA dans ses démarches de récollement de la collection. Et vous le verrez, ça n'a pas été très simple. Après numérisation, la BNF restituera donc la totalité des fascicules mis à disposition. Elle attribue des fichiers numériques à la société avec ossérisation complète des textes. Ossérisation, je pense que vous savez maintenant ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tous les textes de tous les bulletins vont pouvoir faire l'objet d'une recherche sur un simple mot. Si on cherche, je ne sais pas, Cibourg dans les bulletins de la SSLA, grâce à l'ossérisation, la recherche dans Gallica permettra de savoir dans quel bulletin on parle de Cibourg, et après, dans chaque bulletin, où se trouve le mot Cibourg à l'intérieur d'un même volume. Donc la BNF mettra les données numériques en ligne sur Gallica, bien sûr, et elle s'engage à ne pas utiliser les données dans un but commercial, puisque vous le savez, la BNF a une partie commerciale dans ses missions. Ou si elle souhaite le faire, elle s'engage à prévenir la SSLA qui donnera son accord ou pas. Après la numérisation, du côté SSLA, on rend accessibles les données numériques sur notre site internet. Alors le site internet de la SSLA est en cours de refondation. Le basculement doit être fait d'ailleurs, d'après ce que j'ai compris. Mais toutes les données n'ont pas encore été reportées, mais on est en train d'y travailler. Elle s'engage à citer la BNF, bien évidemment, en tant que financeur et opérateur de la numérisation des futures, enfin des données numériques. Alors, je vous disais tout à l'heure que tout ce travail de récollement et de fourniture des données à la BNF a été un travail fastidieux. Donc, nous avons commencé par faire des recherches sur le site de la BNF. Comment est-ce que la SSLA est répertoriée à la BNF ? où on est rassuré puisqu'effectivement elle est bien répertoriée. Et puis on se rassure aussi en se disant que la plupart des bulletins sont présents à la BNF, simplement du fait du dépôt légal. Voilà, donc effectivement sur le site de la BNF, parmi les revues savantes des Pyrénées-Atlantiques, on a bien la revue de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne. On voit aussi que quand on fait une recherche dans le catalogue général de la BNF, en faisant une recherche titre sur les, dans le catalogue des périodiques, on trouve bien le bulletin, toujours, de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, y compris avec ses titres successifs, puisque le titre de la revue a changé au cours des années. Alors, toujours sur nos démarches préparatoires, on a recherché à savoir si, entre les collections de la BNF et les nôtres, on arrivait à avoir une collection complète. Donc, dans le catalogue bibliographique de la BNF, on a quand même eu quelques soucis, puisqu'on a trouvé 4 tranches de période, mais entre 1928 et 2007, on n'a pas trouvé, en tout cas par le titre. Mais bon, de toutes les façons, ces années-là, globalement, la SSL a possédé tous les numéros, donc ça ne nous a pas posé de soucis à l'arrivée. Alors, en amont, au sein de la SSLA, il a fallu faire une vérification, justement, de l'inventaire de la collection détenue. Il y avait bien un inventaire qui était tenu par la société, avec quelques bulletins, donc, comme je vous le disais, qui étaient en faible exemplaire, mais la plupart étaient quand même en multiples exemplaires. Alors, grâce aux reliures annuelles aussi, on a pu tout faire numériser, parce que contrairement à des fascicules séparés qui pouvaient nous manquer, dans les volumes reliés, on avait la totalité de la collection. Donc ça, c'était une première nouvelle rassurante pour nous. Ensuite, donc quand on va toujours sur ce catalogue BNF, comme je vous le disais tout à l'heure, on a plusieurs réponses. On aurait pu penser qu'on en avait une seule avec 1874 à aujourd'hui. Mais non, c'est par tranche, tout simplement parce qu'entre-temps, il y a quelques trous. Donc nous avons 1874 à 1912, 1913 à 1921, 1922 à 1927. Et c'est là qu'on voit donc le trou entre 1928 et 2007. Et alors là, je sais que vous n'allez pas pouvoir trop voir ce qu'il en est, mais ça, c'est notre inventaire à nous, en fait. Donc, dans la première colonne à gauche, on a les années de publication, la période ensuite. Alors, tantôt, ça s'appelait premier trimestre, deuxième trimestre, tantôt, c'était premier semestre, deuxième semestre, tantôt, c'était l'année. Et par la suite, à partir de 1927, c'était le numéro. Voilà, donc on a le nombre d'exemplaires détenus par la société et plusieurs fois répété donc les mêmes colonnes, donc de 1899 à 2022. Alors, toujours concernant ces démarches, on a voulu savoir aussi si ces bulletins étaient déjà numérisés, donc par la BNF et éventuellement par d'autres bibliothèques, notamment la médiathèque de Bayonne. On s'était dit, ben, pourquoi pas voir au niveau de la bibliothèque de Bayonne si les bulletins étaient déjà numérisés, mais ça n'était pas le cas. Et la BNF, par contre, détenait quelques numéros déjà numérisés dans Gallica, soit qui faisait partie des collections de la BNF elle-même, soit qui avait été intégré dans Gallica via d'autres bibliothèques, donc notamment la bibliothèque de Pau et la bibliothèque universitaire d'Aix-en-Provence. Sachant que la plupart du temps, ces exemplaires qui étaient déjà numérisés l'étaient parce que ça avait été numérisé sur commande de quelqu'un qui souhaitait avoir accès aux documents. Vous savez qu'à la BNF, quand on veut accéder à un document numérique et qu'il n'est pas encore numérisé, on peut commander la numérisation. C'est payant, bien sûr, mais voilà. Alors, est-ce qu'il a fallu commencer par vérifier que la numérisation était complète ? Donc, les démarches dans Gallica, c'est d'aller rechercher donc, ces fameux bulletins. Dans les parties, les carrés blancs, vous avez les bulletins déjà numérisés. Les parties grises, non numérisées dans Gallica. Je vous ai mis juste une tranche, c'est la tranche 1874 à 1912, mais pour les autres tranches, on avait la même chose. Tantôt, des exemplaires étaient numérisés ou pas. Par ailleurs, dans les carrés blancs, quelquefois, il y avait un seul numéro, d'autres deux numéros. Donc pareil, il s'agissait d'aller vérifier s'il y avait un seul numéro parce qu'un seul avait été publié dans l'année ou s'il n'y en avait qu'un parce que la BNF n'en avait numérisé qu'un sur deux ou sur trois ou sur quatre. Alors, nous avons fait donc ces vérifications année par année. Dans une même année, tous les numéros sont-ils présents ? Numéro par numéro, les fascicules ont-ils été numérisés de manière complète ? Alors, on a voulu faire ça. Alors, c'était peut-être un peu perfectionniste, mais c'était aussi histoire de voir si ce qui était déjà numérisé devait l'être à nouveau. Et on a constaté qu'effectivement, certains n'étaient pas complets. Donc, on les a donnés, enfin, fournis à nouveau pour une nouvelle numérisation. Et à partir de cela, nous avons rédigé un tableau récapitulatif des anomalies constatées et des démarches à entreprendre, donc notamment une nouvelle numérisation. Alors, quand on va dans Gallica et qu'on choisit un numéro donné, ici, il s'agit du numéro de janvier 1874. J'ai fait aussi un agrandissement sur le côté droit. En fait, en bas de la page, à gauche, vous avez la page de titre du bulletin de janvier 1874. Et dans le bas, vous pouvez faire défiler les pages. Et c'est comme cela que nous avons pu vérifier que la pagination de ce numéro était bien la même que l'exemplaire physique que nous avions en main. Et donc, voilà, nous avons pu procéder de cette façon, et c'est comme ça que, par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des manques. Donc, nous, de notre côté, de 1874 à 1800... Oui, parce que, voilà, 1874, on passe à 1880. Donc, il manquait dans Gallica 1875 à 79. Donc, voilà, nous avons, par exemple, 1874 à 77, c'est un exemplaire relié des bulletins de ces années-là que nous possédons à la SSLA. Nous avons procédé aussi à un comptage méticuleux du nombre de pages. Donc, NP, ça veut dire non paginé, ensuite les pages classiques, les pages en chiffres romains, etc. Voilà. C'est un peu ce que je viens de vous expliquer. Il détermine le plus précisément. Alors oui, la question principale de la BNF pour cette numérisation, c'était le nombre de vues à l'arrivée. Donc cet inventaire que nous avons fait avait cette utilité-là, sachant que quand la BNF numérise, elle numérise également les couvertures. Donc il faut compter aussi, voilà. Donc ça permettait à la BNF de connaître... l'ampleur du travail et le coût de la numérisation. La SSLA a fait le choix de faire numériser jusque 1999. Nous avons totalisé pour les exemplaires à numériser 22 355 vues qui s'ajouteront aux 9 millions on a vu tout à l'heure. Voilà, donc ça, c'est le tableau de récollement qui est demandé par la BNF. C'est-à-dire que le formulaire lui-même, c'est un formulaire fourni par la BNF en même temps que la convention, donc à remplir par le partenaire avec le type d'établissement, donc une société savante, qui met à disposition les documents, la SSLA, titre du document, le bulletin, etc., le volume, les auteurs ou contributeurs, qui est l'éditeur, les dates, est-ce que le document est libre de droit ou sous droit, le nombre de vues et ensuite les différentes remarques. Par exemple, s'il y avait à l'intérieur d'un bulletin une planche avec une carte à déplier, par exemple, il faut l'indiquer pour faciliter la numérisation. Et la dernière colonne, c'est en fait les références ARC, parce que la BNF identifie chaque document avec un numéro différent. Et les documents, notamment celui de 1874, par exemple, qui était déjà dedans, on avait une référence ARC qu'on a mise. Évidemment, après, pour tout ce qui n'est pas encore dans Gallica, on n'avait aucune référence à donner. Alors, les démarches les dernières, enfin, pour préciser en combien de temps nous avons pu faire toutes ces démarches, je vous ai mis le calendrier. Donc, en février, nous avons créé un groupe de travail. Nous étions 3 administrateurs, donc Jean-Paul, ici présent, Jacques Blondy et moi-même, bien aidés par l'assistante administrative de la société Sylvie Rouault. Le projet a été annoncé en Assemblée générale annuelle et la signature de la convention a eu lieu dans la foulée. L'annonce du projet en Assemblée générale annuelle, je veux insister simplement sur le fait que ça a été l'occasion pour la SSLA d'alerter les auteurs des années entre 1954 et 1999 sur cette intention de numériser, puisque bien sûr un auteur peut s'opposer à la numérisation d'un article qu'il a écrit, et auquel cas la BNF, dans ce cas, ne le publie pas. Bon, ceci dit, pour l'instant, on n'a pas eu de retour de personnes qui ne le souhaitaient pas, mais c'est une mention qu'on indiquera aussi sur notre site internet. Alors, de mars à juin, ça a été les démarches que je viens de vous expliciter. Et en juillet, les collections ont été préparées, donc classement chronologique des bulletins, tableau de récollement qu'on a vu juste avant juin. Mais nous avons eu la chance d'être assistés dans tout ça par l'agence régionale du livre, ALCA, puisque c'est une personne de l'ALCA, responsable du patrimoine au sein de l'ALCA, qui est venue récupérer les documents, ce qui fait qu'on n'a pas eu les soucis des transports à organiser. Et par ailleurs, c'est lui-même qui prend en charge la saisie des codes-barres d'identification de chaque bulletin. Donc ça aussi, ça nous a bien soulagés, parce que je pense qu'on aurait demandé un délai supplémentaire. Alors, je termine avec la suite du calendrier. Les documents sont donc partis à la numérisation qui doit être opérée d'ici la fin de l'année. Au premier trimestre 2024, les données seront traitées, c'est-à-dire l'OCR va être mis en œuvre et vérifié. Gallica mettra en ligne les données et fournira un disque dur à la SSLA pour qu'on puisse nous-mêmes mettre nos données en ligne au deuxième trimestre, on l'espère. Et puis les perspectives futures, toujours en lien avec la BNF, c'est éventuellement de poursuivre la numérisation au-delà des années 2000. On verra, il n'y a pas d'urgence, et en même temps, la BNF dit qu'elle est tout à fait prête à renouveler ce partenariat. Et puis éventuellement à envisager la numérisation des autres publications de la SSLA. Voilà.
La modernisation de la SSLA, la numérisation des bulletins, vous venez de suivre l'intervention d'Isabelle Blin, ancienne directrice de la médiathèque de Bayonne, membre de la SSLA. Et maintenant, nous entrons dans une nouvelle thématique, les sociétés savantes entre passé et avenir. Voici l'intervention de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, président de la SSLA de Pau, la Société des sciences, lettres et arts de Pau, saisie dans la longue durée, vecteur culturel et ferment d'avenir. Voici l'intervention de Ricardo Saez.
Bonjour à toutes et à tous. Arrachal León et buenas tardes. La Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn, 1841-1871-2023, saisie dans la longue durée, vecteur culturel et ferment d'avenir. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, chers publics, vous me permettrez, Madame la Présidente, de vous remercier publiquement d'avoir invité la Société des sciences, lettres et arts de Pau et du Béarn, doyenne des sociétés savantes de notre département, instituée au mois de janvier 1841 sous la monarchie de Juillet, à participer au 150e anniversaire de la création de sa sœur cadette en 1873, année inscrite de plein pied dans la genèse de la Troisième République qui voit la mort de Napoléon III et la venue au monde de Thérèse Martin, connue, plus connue, sous le nom de Thérèse de Lisieux. Notre association, représentée ici par son actuel président, s'en trouve ravie et honorée. Elle vous prie d'agréer l'expression de son amicale gratitude. C'est avec un immense bonheur que j'ai accepté de revenir dans cette ville qui a inspiré à Roland Barthes ce fragment incantatoire que je ne résiste pas à l'orée de mon intervention au plaisir de citer. Bayonne, Bayonne, ville parfaite, fluviale, aérée d'entours sonores, Mousserolles, Marac, Lachepaillée, Béris, et cependant, ville enfermée romanesque, Proust, Balzac, Plassans, imaginaire primordial de l'enfance, la province comme spectacle, l'histoire comme odeur, la bourgeoisie comme discours, convoquant ainsi le paradis perdu des jeunes années de ce futur écrivain, sémiologue distingué et professeur au Collège de France, passé aux allées Paulmy, à la maison Lannes, une ancienne corderie où résidait sa grand-mère paternelle, qu'il évoque dans un texte inoubliable qui s'appelle « Les trois jardins ». C'est par ces attaches familiales renvoyant tout à la fois à l'épaisseur du XIXe siècle et à ses ascendants, Léon Barthes et Marie Berthe de la Palue, ses grands-parents, Louis Barthes et Henriette Binger, ses parents, mais également au drame du tragique XXe siècle qui fut le sien, que je retrouve la large époque à laquelle se rattache l'étude dont je voudrais vous entretenir cet après-midi. Il est aussi une autre raison de revenir à Bayonne, tant les liens de la SSLA de Pau avec la ville de Bayonne, sise à la confluence de la Nive et de la Dour, ne se sont jamais desserrés. En témoignent les noms des docteurs très anciens, Ducasse et Delvaille, du bibliothécaire de la ville du Laurent, du député Duclerc, du conseiller général Lafont, du vicaire général du diocèse Manjoulet, membre de la SSLA, mais aussi les contributions d'Édouard Ducéré, et plus près de nous, celle de Pierre Ourmat, tous bâillonnés, glanés à la lecture des anciens numéros de notre bulletin. Dans cet ordre d'idées, comment pourrais-je passer sous silence l'avait Victor Dubarra, 1855-1939, l'un des présidents les plus emblématiques et productifs de la SSLA, travailleur insatiable, ogre historien s'il en fut, né à Bayonne, créateur en 1892 avec Pierre Aristeuil de la revue d'études historiques et religieuses du diocèse de Bayonne, et éditeur avec Jean-Baptiste Daranatz du manuscrit du chanoine René Veillé, Recherche sur la ville et l'église de Bayonne, ouvrage paru en 3 volumes en 1910, 1914, 1930, à Pau et à Bayonne, chez Lafont à Pau, chez Lasserre à Bayonne. Il est l'auteur de 109 articles édités par le bulletin de la SSLA, sans compter une liste très copieuse d'études publiées dans d'autres revues. J'ai même vu qu'il avait publié dans la Revista Internacional de los Estudios Vascos, ou resté à l'état manuscrit. Pour ce faire, je me situerai d'emblée dans le temps long, 1841-2023, antidote face à l'événement fugace et éphémère qui avait régné presque sans partage dans le discours historiographique en France, vertement fustigé par l'école des annales à partir de l'année 1929. Récusé en effet avec acharnement comme un indice identificateur de l'école historisante ou événementiel, pour reprendre à mon compte le lexique forgé par François Simian, Fernand Braudel, dans un article ayant fait date, paru en 1958, substitue à la notion d'événement une autre catégorie analytique afin de lui conférer une assise temporelle et rationnelle plus large et donc plus englobante qu'à plus significative qu'il nomme la longue durée dont Michel Vauvel s'est révélé 20 ans plus tard, en 1978, un exégète perspicace autant qu'érudit. Dans le cas qui m'occupe, il s'agit d'une époque par essence distendue, traversée de temporalités scandées par des cycles successifs, qui, bien que n'étant pas tous de même coulée ni de même couleur, remontent cependant à la même matrice d'origine et au même substrat mental, tel qu'on peut les appréhender, dévider dans les continuités et variations de leur interne chronologie, de leur point de départ à notre présent immédiat. Un tel choix de méthode se prête à une double opération, saisir dans la durée la stabilité du projet de l'établissement d'une société académique à Pau, initié le 23 janvier 1841 par un groupe de 18 habitants, tous résidant donc dans la capitale du Béarn, qui vont se réunir place Grammont chez l'avocat et maître de poste André Manesco, 1791-1875, bibliophile avertie et homme politique en vue. Elle s'étoffe également d'une approche quantitative, nous éclairant sur la moisson, les percées, les conquêtes et les évolutions engrangées par la Société des sciences, lettres et arts de Pau, ayant acquis rang d'institution des savoirs sur son propre territoire, devenue au fil des ans une encyclopédie vivante autant qu'incontournable et s'efforçant de rester un ferment d'avenir au sein d'une culture régionale fortement menacée, mais porteuse de valeurs intellectuelles autant locales qu'universelles. C'est aujourd'hui le défi qu'il faut relever et le combat qu'il nous faut livrer et gagner. Nous faisons passer ainsi du statut d'intellectuel historien à celui d'historien citoyen auquel sut faire honneur notre maître à tous, en tout cas le mien, Marc Bloch. Pour introduire à mon propos, je vous suggère d'explorer, poser sur un axe temporel, trois phases, les unes aux autres liées, susceptibles d'embrasser l'aventure au long cours de la SSLA. Aussi analyserai-je tout d'abord le contexte de sa naissance et de ses fondements culturels et des fondements culturels qui la structurent. Ensuite, le bilan d'une œuvre collective, remarquable à mes yeux, saisie à travers ses multiples chantiers et thématiques d'exploration et de recherche. Et enfin, les signes de faiblesse liés à sa survie, car le présent est le passé de l'avenir. Ne dérogeant pas à la loi du genre, il est rare qu'une innovation ne puisse s'autoriser de filiation l'ayant précédée. Tel est le cas concernant la naissance en 1841 et la renaissance en 1871 de la SSLA de Pau. Sans tomber dans le mythe des origines, la SSLA est la descendante directe et intellectuelle de l'ancienne Académie royale de Pau, une académie des sciences et des beaux-arts succédant à une première académie de musique inaugurée en 1718. Elle est érigée par lettre battante, délivrée le 22 août 1720, le cinquième du règne de Louis XV, dont les statuts sont assez servilement démarqués de ceux de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Bordeaux, fondée en 1713. L'implantation d'une telle institution fait suite à une requête présentée au monarque par l'entremise du duc de Gramont, où il est fait mention expresse que les Béarnais de l'ancien temps s'étaient distingués par le passé dans le service porté à leur souverain en qualité de maréchaux de France et lieutenants généraux, à considérer, est-il avancé, l'éclat de leur courage et également leur zèle, mais qu'ils pourraient briller également dans les disciplines de l'esprit pour peu qu'on leur en donnât les moyens. Sous ce rapport, ils font valoir qu'ils désirent, donc ces Béarnais, de faire voir que, quoique habitant près des Monts-Pyrénées, la nature ne leur a pas refusé autant de dispositions pour parvenir à la connaissance des arts et belles-lettres que ceux qui habitent les autres climats du royaume et que, si leur réputation à cet égard n'est pas encore étendue, c'est faute seulement d'avoir eu dans leur province une académie pour y polir et perfectionner leurs talents naturels par le secours des personnes savantes qui auraient pu leur en communiquer les premiers principes. Une telle demande, exprimée par la noblesse d'office sur la place de Pau, se clôt par la déclaration suivante, et cet établissement, l'établissement d'une académie, est d'autant plus utile que c'est dans l'Académie des sciences que se forme la régularité des mœurs et de l'esprit, si nécessaire pour le repos et la tranquillité de l'État. Une telle obtention place Pau dans le peloton de tête de ces académies, sorte de république des lettres provinciales, dont Christian Desplats au plan local et Daniel Roche au plan national ont tracé en profondeur l'histoire. Elle sera supprimée le 8 août 1793, mais force est de constater qu'elle avait sombré bien avant dans un déclin économique irréversible et dans une profonde léthargie intellectuelle, victime de la médiocrité d'un milieu socioculturel ayant consolidé un corporatisme de classe, je me dois de dire d'ordre, au détriment de la compétence et du mérite. Elle refera surface sous un nouveau visage et dans un tout autre contexte politique qui est au vrai un véritable changement d'échelle, 48 ans plus tard, à s'en tenir à la composition suivante. En effet, à la date du 24 avril 1841, elle comprend 36 membres résidents, 48 membres non résidents et 10 correspondants. Parmi les membres résidents, on relève 7 avocats, 4 professeurs du lycée royal de Pau, 4 peintres, 4 médecins, 3 architectes, 3 avoués, un préfet, un inspecteur d'académie, un imprimeur poète en la personne d'Émile Vignanco. Point n'est besoin de pousser plus avant l'énumération pour constater qu'il s'agit d'une élite sociale et intellectuelle dont la typologie est conforme à celle d'autres sociétés savantes dans le pays, montrant et démontrant cependant par là que la cité paloise n'a jamais été décrochée des grandes dynamiques culturelles qui ont travaillé et agité la nation et que le cœur névralgique de la pénétration de la féconde et généreuse armée des sociétés savantes, selon la juste formule de Françoise Bercé, a gagné également la ville du bon roi Henri IV. Son aire d'intervention géographique relève, à l'origine, cela va changer à partir de 1871, relève donc à l'origine du ressort judiciaire et académique de Pau, à savoir les départements des Basses-Pyrénées, des Hautes-Pyrénées et des Landes. Son programme est sous-tendu par l'idée, héritée du siècle des Lumières et plus particulièrement de l'une de ses figures de proue, Condorcet, pour qui la civilisation de l'esprit est un outil irremplaçable, car émancipateur de l'évolution et du développement des sociétés humaines. En outre, le programme qu'elle a conçu porte à vœu de la gamme étendue des objets offerts au champ de la connaissance, que récapitule l'énumération très courte ici reproduite. 1. Explorer les richesses naturelles des Basses et Hautes-Pyrénées et des Landes, surtout l'archéologie. 2. S'occuper des recherches sur les mœurs, l'histoire, les documents inédits, les monuments archéologiques et artistiques du pays. 3. Plus intéressant, former un centre d'émulation pour l'entretien des bonnes études. Joignant l'action à la réflexion, lors de sa séance du 3 avril 1841, la toute récente société décide de fonder un athénée, sorte d'école dans la Rome antique, destinée à promouvoir les études scientifiques et littéraires, imitant par-delà les âges l'empereur Hadrien, fin lettré, poète et philosophe, amant des arts et de la culture grecque. Aussi propose-t-elle des cours publics et gratuits pour l'année 1841-1842, cours de géologie pyrénéenne, d'astronomie et d'histoire du droit pour le semestre d'été, cours de littérature, d'histoire et d'hygiène pour le semestre d'hiver. On retiendra non seulement la volonté et l'utilité de transmettre et de connaître, anticipant le vœu de Peggy, glissé dans une page admirable des cahiers de la quinzaine, une société qui n'enseigne pas est une société qui ne sème pas. Mais aussi celle d'instruire et d'éduquer, c'est-à-dire de socialiser les cultures dans l'éventail de leurs formes instructives. Son président pèse de tout son poids dans la réussite du projet. Qui est ce Jacques Badet, venu de l'Est, fils d'un menuisier né à Metz en 1809, ancien élève de l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, qu'il intègre en 1830 à sa seconde tentative, faisant partie de la prestigieuse promotion des 12 membres dans laquelle figure Victor Duruy, futur ministre de l'Instruction publique sous le Second Empire. En 1834, fraisé moulu de l'école normale supérieure, il est affecté au lycée de Pau, où il est chargé de l'enseignement des humanités, des mathématiques et de la philosophie. Il est, dans le langage du temps, un polymathe, c'est-à-dire un esprit encyclopédique acquis à la transversalité des disciplines. Jeune et brillant professeur, nommé en 1841 inspecteur des monuments historiques du département des Basses-Pyrénées, il est élu à l'âge de 32 ans, je dis bien 32 ans, président de la SSLA de Pau. On aura remarqué que l'Académie d'Ancien Régime s'est vue supplantée par un paradigme démocratique, celui du mérite et du savoir. Jacques Badet en est l'illustration et la Société des sciences, lettres et arts de Pau, la digne ouvrière. Elle se dote d'un bulletin. Je possède par chance le second numéro, je possède aussi le premier, mais il est relié. Un bulletin qui paraît tous les mois. Ça va changer. Il deviendra trimestriel, mais au point de départ, il est mensuel. Voilà, donc elle se dote d'un bulletin qui paraît donc tous les mois, qui est édité donc en 1841, 42 et 43, et qui se monte à 10 francs et à 12 francs si le bulletin est envoyé par la poste. Au premier trimestre de l'année 1844, sans que l'on connaisse la raison exacte, la société s'arrête de fonctionner. Voilà. Alors on a émis un certain nombre d'hypothèses. Adrien Planté, qui a été orthésien et président de la société, en a émis pas mal. Mais je crois que la raison est toute prosaïque. Elle est due effectivement au départ de Jacques Badet à Paris. Il quitte Pau en 1844 pour Paris, où il va mourir d'ailleurs très tôt, à l'âge de 36 ans, d'une fluxion de poitrine. Voilà. Donc, à partir de 1844, il n'y a plus de vie académique, il n'y a plus de vie effectivement intellectuelle, celle en tout cas qui avait été suscitée par la SSLA sur la ville de Pau. Il aura quand même édité trois volumes, ceux des années 1841, 42 et 44, se montant en 1030 pages, auxquels on ajoutera 96 pages correspondant au mois de janvier, février et mars. Après donc 27 ans d'interruption, M. Noguet, né à Cadix, dans l'importante colonie béarnaise, très importante, commerçant avec le Nouveau Monde, va demander au nouveau préfet de Pau, à qui Thiers vient de confier la préfecture de Pau, le marquis de Nadaillac, de revigorer, de reconstituer la Société des sciences, lettres et arts de Pau, qui existait autrefois dans l'ancienne capitale du Béarn. Au cours d'une très brève allocution, le nouveau préfet insiste sur un point capital, mettant en exergue combien il importe de relever en France les œuvres de l'esprit, car c'est à son abaissement qu'il faut en grande partie attribuer les désastres que la patrie vient de subir, c'est-à-dire la guerre, et donc 1870. Coïncidence de date, je me permets de signaler que c'est cette même année que paraît l'ouvrage d'Ernest Renan, dont le titre est le suivant, « La réforme intellectuelle et morale de la France ». Cet appel à un réarmement moral et intellectuel dans une France meurtrie, car la défaite n'a pas été seulement militaire, est immédiatement suivi d'effet puisque, à peine quelques jours plus tard, le 5 juillet 1871, le jour même de la mort de Joseph Noguet, une nouvelle société est refondée à Pau. Ses refondateurs, au nombre de 67, comptent dans leur rang 27 hommes de loi, des juristes, qui vont être un petit peu le grand vecteur de diffusion culturelle jusque dans les années 30 et même après au sein de la SSLA. Ces refondateurs, donc, magistrats, qui adoptent les statuts dont le premier stipule que la société a pour but de contribuer par les efforts réunis de tous ses membres au progrès des sciences, des lettres et des arts. C'est depuis cette époque l'article premier des statuts de la SSLA, nous venons effectivement de les faire approuver le 8 août 2022, mais ils reprennent exactement à la lettre près ceux qui avaient été approuvés en 1923, 1938, 1967, et de 67 à 2022, personne n'y avait touché. De cette date à l'année 1973, le bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau s'est succédé à lui-même sous un format inchangé, c'est-à-dire ce format, voilà, ayant connu à ses débuts, depuis ses débuts, pardon, quatre séries disposées de la fin, à la fin des années 60 selon une répartition canonique déclinée en trois sections. D'une part les articles, d'autre part les mélanges et ensuite les documents, faisant en quelque sorte l'économie de multiples comptes rendus, procès-verbaux et listes des membres ayant réussi tant bien que mal à masquer un certain étiolement, pour ne pas dire une certaine indigence en matière de recherche. On ajoutera que la société a connu deux moments difficiles à négocier. Le premier, en 1914-1918, puisque pendant 21 mois, du 25 mai 1914 au 24 février 1916, aucune activité académique n'a eu lieu. par ailleurs. Un seul bulletin couvre les années 1914-1917. Il en va de même pour les années 1918-1919, qui ne comptent que deux articles, un article de l'inévitable Dubarra et l'autre de Batcave, figure intellectuelle de la ville d'Orthez vivant à Paris. Le second moment se situe dans les années 1935-1937, période pour laquelle la société ne possède qu'un maigre volume de 66 pages, que j'ai là, publié en 1938, lorsque le bulletin ne parvient plus à assurer une publication régulière, en raison non seulement de la, santé déficiente de l'abbé Dubarra, son président, mais également et surtout de la situation économique qui avait obligé le bureau à suspendre les séances et la publication du bulletin. On doit à l'arrivée, le 26 avril 1938, d'un nouveau président, responsable et énergique en la personne de M. René Anceli, je salue son petit-fils ici dans la salle, magistrat, procureur général à la Cour de Pau, d'avoir sauvé la société et le bulletin d'une mort imminente. C'est à ce même président que la société est redevable de l'obtention du label d'utilité publique, décret du 28 juillet 1939, quelques jours seulement avant la déclaration de la guerre de l'Angleterre et de la France au Troisième Reich. Ce qui signifie que le rayonnement de notre société a dépassé son cadre local et qu'elle est habilitée à recevoir des legs et des dons, récompensant ainsi un travail culturel et civique de toute première valeur. Hormis ces deux accidents de parcours, sa régularité n'a pas souffert d'autres éclipses. En 1973, elle se donne un nouveau visage. Voilà. Elle se donne un nouveau visage et abandonnant le titre de bulletin tenu pour vieilli et caduque et modifie sa page de couverture, et ce à un double point de vue. Tout d'abord parce que depuis 1938, le bulletin a une publication annuelle et non plus trimestrielle, et ensuite parce qu'il prend donc elle prend cette nouvelle revue, la revue de Pau et du Béarn, un nouveau titre, donc revue de Pau et du Béarn, marquant ainsi non seulement un changement terminologique, mais affichant clairement un élargissement géographique. En effet, ne se cantonne plus à la ville de Pau, un cénacle d'érudits, mais elle se veut, bien sûr, elle veut couvrir tout le Béarn, elle se décentralise, et donc elle se veut le lien entre tous les Béarnais. Un autre événement qui est majeur pour la tenue et la survie de notre société et l'implantation à Pau, en 1970, d'une université de plein exercice qui est déterminant, puisque c'est à partir de ce moment-là que le milieu universitaire devient déterminant pour la société. Ce sont les années fastes. La société va connaître une augmentation extraordinairement élevée de ses adhérents. Elle monte à 1400 adhérents. Elle en est aujourd'hui à 200. Elle publie des revues dont certaines font presque 600 pages, avec peut-être un défaut, c'est qu'elles sont marquées de façon un petit peu trop universitaire. La revue est de qualité, elle n'est pas forcément universitaire. Ce sont les années fastes, les années des commémorations, des années des grands colloques et la chance pour Pierre Tucauchala de devenir en 1965 président de la société de Pau et du Béarn, mais également de l'Académie de Béarn, qui est moribonde en 1974 à la mort de Raymond Ritter, et à la demande expresse du maire de Pau, M. Salnave, Pierre Tucauchala a la double casquette. Et c'est là où on voit toute l'intelligence de l'universitaire. Il va faire travailler deux institutions qui ne travaillent plus ensemble, mais qui ont travaillé pendant très longtemps et qui ont pu effectivement monter un certain nombre de colloques, notamment celui-ci. Tout d'abord, c'est la première fois où, dans la revue, apparaît la couleur. Bon, voilà. Un signe, petit signe de modernité, la couleur. Et puis, la fameuse journée en 1990 sur Léon Bérard. Voilà. Donc, il y a une synergie qui aujourd'hui a disparu, que l'on doit mettre, bien sûr, à l'actif de Pierre Ducochalin. Il va créer les cahiers de l'Académie de Béarn et il va faire travailler ces deux institutions. Ensuite, il va y avoir deux autres présidents, admirables tous les deux, Desplat et Benoît Cursante, mais on commence à détecter depuis l'année 1992 une lente mais dangereuse érosion. Ces présidents ont été tous complémentaires, représentants accomplis de l'excellence universitaire et chercheurs émérites. Je vais aller très très vite. Vous présentez tout d'abord massivement, quantitativement parlant, ce que cette revue a pu obtenir au cours, effectivement, de ce temps long de sa gestation. Tout d'abord, on compte aujourd'hui 42 000 pages produites par la revue. 1530 articles. Je n'ai pas compté tout ce qui relève des documents. Je m'en suis tenu uniquement aux articles. On remarque que, jusqu'à l'année 1973, 79%, presque 80%, est effectivement voué, consacré à l'histoire. À partir des années 2009 et un peu plus tard, on va voir arriver effectivement d'autres domaines. Un, le domaine de la biographie, qui touche à des grandes personnalités béarnaises ou de la région. Deux, pour la première fois, l'entrée dans cette société de l'époque contemporaine, ce qui est le cas à l'heure actuelle. Et trois, les études qui sont consacrées à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, nous avons équilibré un petit peu les poids et l'histoire continue d'occuper à peu près 70% et le reste, donc, les autres matières dont je vous ai parlé. Que peut-on dire aujourd'hui de cette société? C'est la question qui est au centre de nos préoccupations. Comment, effectivement, préparer l'avenir? Nous avons un problème sur la place de Pau et du Béarn, c'est la multiplicité des associations. Donc il y a un grand émiettement. Premier point. Le second point, c'est vrai que les études telles que nous les avons connues aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Et que ce que nous proposons, qui demande quand même un certain petit niveau, met peut-être en difficulté un certain nombre de personnes de notre public. Notre idée, et elle n'a pas changé, c'est de rester effectivement dans le critère de l'utilité sociale, car notre société nous permet de nous penser, un, dans la distance, pour comprendre, bien sûr, notre géographie la plus immédiate. Donc nous travaillons là-dessus, c'est-à-dire accentuer ce lien entre connaissance et lieu d'habitation. Un autre point qui est quand même très très important, c'est que nous voudrions que le personnel politique s'implique beaucoup plus. Serait-il illusoire de penser que dans chaque mairie de Pau, il y ait un numéro de la revue de Pau et du Béarn, qui soit mis à la disposition des gens habitant tel ou tel endroit? Donc ce sont toutes ces préoccupations qui aujourd'hui nous occupent terriblement. J'ai pris un bâton de pèlerin, je suis allé voir les autres associations. L'idée d'une synergie fédérative semble bien admise. Il faut maintenant que nous passions effectivement à un fonctionnement dans la réalité. Nous sommes animés par le feu de la passion et je pense que nous devons conserver donc ces cultures régionales, car sans elles, je crois que le sens s'en affadirait. Je pense que notre région viendrait à perdre ses couleurs. Et je pense aussi que, comme nos prédécesseurs, et je voudrais quand même engager une discussion avec vous, il nous appartient de redevenir inventifs et créatifs. Merci beaucoup.
La Société des sciences, lettres et arts de Pau saisit dans la longue durée, vecteur culturel et ferment d'avenir. Vous venez de suivre l'intervention de Ricardo Saez, professeur émérite de l'Université de Pau, président de la SSLA de Pau. Retrouvez toutes ces interventions sur le site internet de Radio Lapourdi, www.lapourdi.net, dans la rubrique Magazine et dans la rubrique SSLA 150 ans. Les 150 ans de la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne, société savante et personnalité régionale. Rencontre scientifique organisée par la Société des sciences, lettres et arts de Bayonne à l'occasion du 150e anniversaire de sa fondation, novembre 1873-novembre 2023, avec le concours de la ville de Bayonne. Les 150 ans de la SSLA à la Maison des associations de Bayonne, les 22 et 23 novembre 2023. Retrouvez toutes les interventions sur le site internet de Radio Lapourdi, www.lapourdi.net.